Actu SF, les podcasts.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette table ronde sur nos futurs solidaires, avec quatre auteurs qui sont présents sur la scène, et je vais vous les présenter brièvement. Nous avons tout d'abord, tout à ma gauche, ouais. Sylvie Lenné, à gauche, Sylvie Lenné, qui est une auteure de nouvelles, de novella. Ces nouvelles ont été publiées dans divers supports, mais nous avons la chance de pouvoir toutes les retrouver dans Fidèle à ton pas balancé, Fidèle à ton pas balancé, aux éditions Actu SF. À l'entrée de la tente principale, ils sont donc faciles à trouver.
Ah non, il revient.
Ah. Jean-Pierre Dion. J'ai oublié quelque chose. Alors, Sylvie Lenné a obtenu plus d'une dizaine de prix littéraires, dont 4 fois le prix Rosny et 2 fois le Grand Prix de l'Imaginaire, ce qui permet de situer quand même le niveau de son talent. Juste à ma gauche aussi, direct, mais là, nous avons Katie Stewart, qui est originaire de la Martinique. Katie Stewart est nouvelliste, romancière et poétesse. Elle était diplômée en mathématiques, puis en sciences du travail, en secourisme et en psychologie clinique, ce qui fait beaucoup de choses, mais elle s'inspire de ses expériences professionnelles dans ses récits. Alors, ces nouvelles ont été publiées aussi dans des revues ou des anthologies. On peut en retrouver plusieurs dans son recueil « Connexion interrompue » chez Rivière Blanche. On peut encore citer « Noir sur blanc » ou « Confession d'une séancière », qui est un roman fantastique. Elle anime aussi des ateliers d'écriture. Son dernier livre, « L'évangile selon Myriam », il y en a des piles aussi sous la tente, publié aux éditions Mnemos. Nous avons à droite cette fois de Sylvie Lenné, Michael Rock. Michael Rock, qui est le coup de cœur du festival de cette année. Michael Rock est écrivain et scénariste de science-fiction. Né à Lyon, il vit actuellement en Martinique. Donc en fait, il a fait le chemin inverse de Katie. Donc ils se sont changés leur place. Alors, son roman, Moi, Peter Pan. Aux éditions MU, le fait remarquer. Il enseigne la création littéraire à l'Université des Antilles. Il mène plusieurs ateliers d'écriture autour de l'afrofuturisme, qui est donc le thème de cette édition. Il œuvre aussi sur les réseaux sociaux. Son dernier roman, Termaon, c'est juste comme je prononce ?
Termaon.
Termaon. Est publié aux éditions La Volte. Enfin, au centre de l'aéropage, nous avons Ariel Kirou, qui est journaliste, écrivain, essayiste et chroniqueur de radio, spécialisé dans les nouvelles technologies, les musiques électroniques et la science-fiction. Il a été rédacteur en chef d'Actuel de 1989 à 1993. Je suis suisse, j'ai eu un peu de peine à lire ça correctement, mais j'ai réussi. Merci, mais je l'ai écrit. Il a été le scénariste du documentaire Les Mondes de Philippe K. Dick, diffusé sur Arte. Et je crois que c'est un film qui a eu un prix, sauf erreur. Et il a sorti en octobre 2020 un essai de 600 pages qui s'appelle Dans les imaginaires du futur. Complété, si l'on peut dire, par Nos futurs solidaires, qui est ici, anthologie qu'il a dirigée et qui est le sujet de cette table ronde. Alors, pour commencer, j'ai envie de poser une première question à Ariel Kirou. Comment est née l'idée de joindre la solidarité à la fiction à travers des textes de science-fiction ? Qui a eu cette idée, en fait ?
Ben, les idées, elles fusent. Les idées, c'est toujours compliqué de savoir qui l'a eu. Et dès lors que quelqu'un dit « c'est moi », c'est forcément un usurpateur, à mon sens. Donc, ce n'est pas moi. Voilà. Non, l'idée, elle est née en fait d'un travail qu'on commençait à mener avec une fondation qui s'appelle la Fondation Cognac-Jay, qui a une fondation à but non lucratif, qui a des établissements, qui travaille dans le médico-social, dans la santé aussi. Donc une belle institution, en fait, hein, donc, qui a plus d'une douzaine d'établissements. Et donc on discutait avec cette structure qui n'a jamais communiqué sur comment faire pour fêter son centenaire. Parce que en fait, c'est une structure qui est née, c'était un peu en quelque sorte les anciennes bonnes œuvres de la Samaritaine, sauf que depuis, évidemment, ils n'ont plus aucun lien avec la Samaritaine. Et ils sont vraiment dans cette logique de solidarité, hein, cette logique de fraternité, de solidarité, d'accompagnement des personnes en situation de précarité, de vulnérabilité. Donc c'est vraiment leur credo, hein, c'est carrément dans leur statut. Et dans nos discussions, on a eu l'idée de créer un laboratoire des solidarités, c'est-à-dire une sorte d'instance qui réfléchirait à ce que pourrait être la solidarité d'aujourd'hui et de demain, d'essayer de se projeter justement dans le futur proche ou lointain de la solidarité, avec à la fois des penseurs, des analystes, des reportages en France, ailleurs dans le monde, par exemple, on a été en Guadeloupe parler de Plus belle la rue, au départ Plus belle la rue, d'ailleurs c'est Plus belle la rue, hein, au départ ce sont des gens qui décident juste de leur quartier, c'est le quartier, je ne sais plus comment s'appelle ce quartier, Vatable, un truc comme ça, donc à Pointe-à-Pitre. Et voilà, et à un moment donné, juste, ils décident de peindre leur façade. Et à partir de cette idée de peindre leur façade, ils ont transformé tout le quartier. Les jeunes ont commencé à peindre aussi, il y a eu des graffeurs qui sont venus. Et toute une vie s'est reconstruite dans un quartier qui était complètement laissé pour compte. François Fanon dirait un quartier des damnés de la terre, qui quelque part se sont levés, en quelque sorte, pour faire. Bon, et donc... On s'est dit à un moment donné que, en discutant avec les gens de la Fondation, avec Georgia Cirné-Sebregondi, avec Jean-Luc Fidel, le directeur général de la Fondation, et puis Catherine Dufour, qui nous a rejoint, donc l'autrice de science-fiction, entre autres, qui nous a rejoint dans notre comité éditorial qu'on avait créé, avec des sociologues, avec pas mal de gens venant d'horizons divers, eh bien, on s'est dit à un moment donné que l'une des façons d'explorer le futur de la solidarité, c'était aussi de faire appel à des gens de fiction. Parce qu'au fond, finalement, on a besoin de quoi ? Quand on voit aujourd'hui, dans une société qui perd toutes ses valeurs, hein, société bourgeoise de consommation, et tout ça s'effiloche, il faut créer un nouveau socle. Il faut donc être capable à la fois de se projeter, de bien comprendre, et l'histoire nous aide, l'histoire décoloniale bien sûr, et la science-fiction nous aide aussi à comprendre qu'il y a des mondes alternatifs, d'autres façons de faire, et qu'il y a d'autres façons de faire, et d'autres façons de construire, de faire société, de faire en concret un établissement, sur le terrain. Voilà. Et donc... naturellement, on a proposé cette idée et on a commencé dans une revue qui a eu 5 numéros. On a fait donc deux nouvelles par an, qu'on a donc commandé à des auteurs et autrices, en leur disant juste le seul point d'orgue, c'est il faut que c'est de près ou de loin quelque chose à voir avec la solidarité. Et il y avait une thématique aussi dans chacune des numéros, hein, les lieux de la solidarité, l'attention à l'autre. Donc c'était pas très strict. Et avec ces auteurs et autrices, en leur laissant complètement liberté, on a essayé de construire au fond, finalement, à la fois d'ailleurs des nouveaux horizons de possibles, mais aussi des histoires, tout simplement, avec pourquoi pas aussi des chemins. Et ce qui est très important dans une fiction, c'est que chacun peut l'interpréter. Il n'y a pas une volonté d'un auteur de dire ceci est bon, ceci est mauvais. Et c'est vrai qu'en termes de laboratoire, sur ces questions de solidarité, explorer des choses qui se font ici et maintenant en France et ailleurs, mais aussi faire appel à des créateurs, à des artistes, pour essayer eux-mêmes de voir comment ils raconteraient ce réel transformé, ce réel transfiguré, par non plus la compétitivité pure et parfaite, qui donc est une horreur indicible, mais par le manque de compétitivité impure et imparfaite, eh bien, ça valait la peine. Et donc, on a tenté le coup. Et in fine, ça a abouti à ce recueil de 14 nouvelles avec 4 moments de conversation autour des questions de solidarité. Et je suis trop bavard et donc je laisse la parole au modérateur.
Très bien, merci. J'allais justement poser la question suivante. On parle de solidarité, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la solidarité ? Comment définir la solidarité ? Est-ce qu'il y a une différence entre la solidarité et la charité ?
L'un de vous veut répondre ou... hein, sinon je réponds.
Moi, je veux bien répondre. Comme ça, tu te reposes. Hein. Alors, je n'ai pas réfléchi à proprement parler à cette définition, mais en entendant Ariel parler de l'histoire de la Fondation Kéonagjé, j'y ai pensé immédiatement en me disant mais la charité et la solidarité, ce n'est pas tout à fait la même chose. et vouloir aider des gens en ayant en tête ce qui est bon pour eux, ça serait plutôt du côté de la charité. La solidarité, c'est encore autre chose. C'est vraiment peut-être le sentiment qui va mener à s'intéresser à l'autre et à le considérer comme faisant partie de son groupe, de son humanité, de quelqu'un avec qui on est lié, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a des liens, mais c'est quand même pas, ça se situe pas au même niveau. Et autant la charité, j'en veux pas, la solidarité, si on peut contribuer à la construire entre nous, à se reconnaître comme étant solidairement donc lié dans un destin commun, il me semble que là, on peut commencer à discuter, on peut commencer à réfléchir en collectif.
Je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Katie. La charité, j'aime pas bien non plus, parce que ça sous-entend qu'il y a des gens qui sont là pour donner, qui ont beaucoup. En général, c'est très connoté financièrement, c'est économique. Alors que pour moi, la solidarité, c'est tout à fait différent. C'est du partage sur le principe, tout le monde a quelque chose à donner et tout le monde peut enrichir tout le monde, mais pas forcément financièrement ou économiquement d'ailleurs. Parmi les premiers retours que j'ai eus quand on m'a demandé de pitcher un peu mon idée, c'est inhabituel, je t'ai entendu le dire dans une table ronde, Katie, que c'était pour nous un exercice inhabituel quand on fait une petite nouvelle, qu'on nous demande de la résumer en une page avant qu'on l'ait écrite. On y arrive quand même parce qu'on est des vrais professionnels. Et je sais que le premier retour que j'ai eu sur mon ébauche de scénario, où j'avais déjà une idée assez claire de ce que je ferais, ça a été « Mais tiens, c'est curieux, dans ta nouvelle, il y a des gens qui visiblement ont les moyens de manger des choses de qualité, qui coûtent un petit peu cher. Mais oui, mais il y en avait qui souffraient de solitude. Il y avait dans mon projet un jeune qui avait juste besoin qu'on lui consacre de l'attention et qu'on lui donne qu'on lui lance des défis. Il y avait tellement de choses qui manquaient aux uns et aux autres que traiter ça sous l'angle économique, c'est très très réducteur. La solidarité, c'est bien autre chose.
Voilà, avant de laisser la parole à Michael, c'est qui réfléchit encore à ce qu'il va pouvoir avancer, effectivement. Mais je crois que la charité, c'est surplombant. Ça reste dans une logique qui reste totalement hiérarchique. C'est je surplombe non pas pour de mauvaises raisons, parce que le gars que je surplombe ou la femme que je surplombe est juste moins que rien, mais pour soi-disant de bonnes raisons qui parfois aboutissent à des résultats encore pires. La logique de la solidarité, c'est réellement la capacité à penser que l'autre différent de moi peut m'apporter quelque chose et que peut-être je peux lui apporter aussi. On est dans une logique qui est beaucoup plus de pair à pair, même si on est ultra différent, qu'une logique surplombante. Et je crois que ça, c'est... Voilà. Oui, et différent, qu'est-ce que c'est ? C'est différent, c'est parfois très proche, en fait. Parce que justement, on va contacter le différent, rejoint la proximité, c'est là-dessus qu'on va se retrouver et profiter de nos différences. Voilà. Oui, bah, voilà. Bon, en tout cas, donc, en gros, c'est de la diversalité, dirait Michael.
Oui.
Voilà, il a dit oui.
Non, mais vous avez déjà tout dit.
Ils ont presque tout dit, mais pas tout.
Pas comme toi, tu vois. Pas comme moi, oui, mais c'est la même chose. Je ne veux pas répéter des choses que Katie a tout à fait dites.
D'accord, je vais aller un bout plus loin, justement. Dans le livre, là, Nos futurs solidaires, il y a des nouvelles d'auteurs, dont trois sont ici sur ce plateau.
Anne-Sophie dans la salle.
Ah voilà.
Anne-Sophie dans la salle, il y a aussi Martine qui a travaillé en relecture de l'ensemble des textes. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. C'est
un travail solidaire. Mais il y a aussi des conversations. Il y a quatre conversations qui sont repérées par des couleurs un peu différentes. Et dans une de ces conversations, il y a une différence qui est faite entre solidarité froide et solidarité chaude. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est ?
Oui, ça dépend. Ben, ça dépend du temps qu'il fait, s'il a plu ou pas. Non, bon, plus sérieusement, en fait, ce qu'on appelle la solidarité froide, c'est la solidarité qui, pour se construire, suppose une distance. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on paye nos impôts, on n'est pas content parce que ça va pour faire des chars d'assaut, mais on est plus content si ça sert à l'éducation et potentiellement la redistribution, toutes les logiques de redistribution sociale, elles fonctionnent parce que je ne connais pas potentiellement celui à qui je reverse finalement cet argent via le système de redistribution. Donc la solidarité froide, c'est cette solidarité qui doit se faire, qui se construit de fait. La protection sociale est totalement bâtie là-dessus, sur cette notion de solidarité qui est en gros, voilà, je ne connais pas la personne, les personnes, voilà, je respecte profondément l'idée que cette aide, cette redistribution, toute cette logique-là est absolument indispensable. Solidarité froide. Solidarité chaude, c'est à l'inverse celle des communautés, c'est à l'inverse celle qui suppose un contact direct, en quelque sorte, avec les personnes, qui passe par des associations, par le SAMU social, par un tas de structures, qui, elles, se donnent comme mission, ou des gens qui aiment, ou des gens potentiellement qui peuvent s'aider sans même être partie prenante d'organisation. Hein, on va filer un repas. Moi, je sais pas, l'autre jour, il y a un gars qui était dépanaillé qui arrive dans une boulangerie. J'étais en train d'acheter à manger pour l'ensemble d'une réunion. Il voulait un café, il embêtait tout le monde. Ben, je lui ai offert le café, quoi. C'est de la solidarité super chaude parce que le café, c'est chaud. Voilà.
Merci. Toujours dans ces réflexions entre les textes, il y a une réflexion de Stéphanie Nico dans la deuxième conversation qui m'a interpellé. Elle dit « Quand on réfléchit aux valeurs de solidarité, on s'aperçoit que raconter une bonne histoire sans faire de prêchi-prêcha moraliste, ce n'est pas facile. » Et je voudrais poser la question justement aux auteurs. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour rédiger une histoire de science-fiction solidaire? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous avez réussi à éviter le prêchi-prêcha? Enfin...
Bah, je commence, oui.
Alors, le nom de ta nouvelle.
Ma nouvelle, c'est Les vies de Montpitac. Et je pense que la réponse est un peu non, dans le sens où la solidarité telle qu'on nous a demandé de l'exposer dans chacune des nouvelles, devait partir de nous-mêmes. On parlait à partir de soi, déjà. Quelle était notre notion de la solidarité? Et à partir de là, cette solidarité ne peut s'exprimer qu'en résonance avec nos propres émotions, et notre propre rapport au monde, notre fort intérieur et comment on se positionne dans cette mondialité. Et plus précisément pour ma nouvelle de Montpitac, j'ai eu du mal à l'écrire, mais pas à cause de cette solidarité qui est quelque chose finalement d'assez inhérent dans mon travail et dans mon regard, dans mon positionnement dans la société. Mais pour le côté difficile, ça a été de toutes les recherches que j'ai faites autour du thème que j'ai exploité, qui est justement la solidarité envers les vies virtuelles. Pour préciser un petit peu, à quel moment, je me souviens même plus, la valeur d'une vie, est-ce qu'une vie a une valeur déjà ? La vie physique, on est tous d'accord que non. Mais du coup, la vie virtuelle, les traces qu'on laisse sur les réseaux, celle-là, est-ce qu'elle a une valeur? Quand le corps meurt, quand le corps physique meurt, est-ce qu'on ne doit pas tout faire pour sauver la vie qui reste de nous sur les réseaux? J'avais en tête cette anecdote d'un jeune homme qui n'avait jamais réussi à faire le deuil de son père, et qui avait inscrit son nom dans un jeu vidéo bac à sable, univers étendu, sur l'Internet. Et en jouant des heures et des heures, des mois et des mois après la mort de son père, il retombe sur le PNJ qui porte le nom de son père. Et à partir de ce moment-là, il comprend que son deuil se termine là. Juste le fait de revoir cette vie-là dans la virtualité, ça lui permet de passer cette dernière étape du deuil. Donc toute la question se posait là, est-ce qu'on doit sauver la vie des virtualités et se porter solidaire d'elles?
La réponse est oui, dans votre nouvelle.
Oui.
Oui, justement, c'est la nouvelle de Michael Rock, c'est Lévi de Manpitak. Manpitak. Mon, on dit mon. Ok, j'ai cru. Manpitak. Ok. C'est une nouvelle originale, émaillée de mots créoles qui la rendent savoureuse. Dans les grandes lignes, donc, Manpitak est une, comment est-ce qu'on dit, quimboiseuse, voyante, rebouteuse, qui aide des infirmières et infirmiers à sauver le plus de vies possible auprès des plus pauvres. Mais justement, pas seulement leur vie physique, mais aussi leur vie virtuelle. Et je me demandais si on peut pousser la solidarité aussi loin. Bah, vous avez répondu oui. Okay.
On a tout un vocabulaire en fait, qui s'est déplacé du monde de l'hôpital au monde cybernétique, avec des virus, des zones de quarantaine, et donc des antivirus. Et donc, voilà, c'est une bande d'infirmiers qui s'occupe justement d'agir dans les quartiers où la fracture numérique est un peu trop importante et où justement l'accès au numérique qui permet d'avoir une vie meilleure quelque part, plus facile, juste pour remplir des déclarations d'impôts par exemple, ben voilà, on y va quoi, solidairement.
Et la main de Kitty sur le numérique aussi, je crois.
Oui, et essayer aussi de répondre à la question de notre modérateur. Mais en t'écoutant parler de vie virtuelle, évidemment, j'ai pensé à mon texte qui met en scène des personnages dont on ne sait pas grand-chose. On connaît leur identité de genre, on connaît quelques éléments de leur caractère, et au fur et à mesure, on se rend compte que ce sont des personnes qui vivent dans la même monade. Donc la monade, c'est ce qui remplace la famille à cette époque-là.
Je peux t'interrompre un instant, oui, et lire un petit passage.
Oui, je peux même le lire, si
ouais.
Tu veux.
Tu veux le lire?
Oh, ok. Merci.
C'est là où j'ai mis le crochet. C'est l'histoire de monade, justement.
Remarquez que c'est le modérateur qui propose à l'auteur le passage à lire.
Voilà.
Ça, on se sent libre.
C'est la solidarité.
Les monades, apparues en 2045, succèdent au PAX, Pacte civil de solidarité, et avant eux, aux familles, sorte d'association fondée sur le mariage. Les mariages représentaient des contrats sans base rationnelle, conclus entre deux personnes et célébrés lors de cérémonies tapageuses destiné à éloigner le mauvais œil. Ces contrats se résiliaient fréquemment au terme de procédures longues et onéreuses, marquées elles aussi par l'impulsivité. La désaffection pour les mariages avait remis au goût du jour les pacs, moins contraignants, qui s'étendirent alors de deux à plusieurs partenaires, indépendamment de leur genre. Les monades sont des versions améliorées des multipacs. Elle fixe les règles de solidarité matérielle et morale au moyen d'une charte consentie par chacune des parties. Les monades peuvent compter de 2 à 10 membres.
Merci.
Et donc, effectivement, sans gâcher la découverte du texte, il se trouve qu'il y a un personnage donc, qui s'appelle Eric, auquel on a accès, comme tous les autres personnages, à travers... ses mots, à travers les mots qu'il utilise, à travers des choses qu'il dit aux autres, à travers des choses qu'il dit à l'intelligence artificielle qui gère la monade. Et Eric veut quitter la monade, sauf que Eric ne sait pas très bien qui il est. Eric est persuadé d'avoir un corps quelque part dont quelqu'un doit bien s'occuper. Et ça devient compliqué parce que, en fait, peut-être qu'il n'en a pas, peut-être que... Voilà, c'est compliqué pour lui. Et finalement, on découvre des relations donc, qui sont donc, ces relations de monade, où les gens se connaissent, où ils se soutiennent, où ils sont censés former un collectif. Et ces gens ne sont pas forcément que des humains. Ces gens ne sont pas forcément pareils, ne sont pas forcément au même niveau. Et là se pose la question de avec qui on est solidaire et jusqu'à où. Est-ce que si mon ami de monade est un programme, est-ce que je lui dois quelque chose? Si on peut l'effacer et le reprogrammer, est-ce qu'il vaut quelque chose? Et c'est là que j'ai eu l'écho par rapport à ce que tu disais. Et pour répondre à la question de la solidarité, est-ce que c'était facile d'écrire sur la solidarité et cette question d'avoir un... comme une commande et le risque de faire un manifeste. Moi, je ne crois pas que la littérature relève du même exercice que l'écriture d'un manifeste. J'ai des idées assez claires et bien arrêtées sur tout un tas de choses. J'ai des principes qu'on me reproche parfois d'être un peu rigide sur un certain nombre de choses. Ça, c'est moi, c'est mon cadre de vie. Quand je crée, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est indéterminé, tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je vais avoir envie d'explorer, tout ce que je vais avoir envie de tester. Et quand j'entends parler de laboratoire des imaginaires, j'ai l'impression que... Non, pas des imaginaires, des solidarités. Moi, mes textes sont des laboratoires, donc du coup, avoir un laboratoire qui vient aider un laboratoire, et enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça d'un peu imbriqué, mais c'est vraiment la possibilité de se poser des questions et d'être sur des choses ambiguës. C'est ça que permet le récit, d'avoir quelque chose d'incohérent, d'avoir de la nuance et d'avoir quelque chose qui ne correspond pas à l'exercice d'écriture d'un tract, d'écriture d'un manifeste, d'écriture d'un message politique. C'est pas du tout la même chose. Donc évidemment, voilà, je n'ai pas eu cette difficulté parce que je savais ce que j'allais faire.
Et d'ailleurs, juste avant de partir, il faut dire qu'elle n'a pas voulu faire de pitch.
J'y arriverai pas, je crois.
Non, mais elle n'a pas voulu faire de pitch, donc elle n'en a pas fait. Voilà. Et maintenant, c'est à Sylvie.
Merci à notre nouveau modérateur. Oui, ouais. Alors, la question était, est-ce que ça a été difficile ? Les solidarités, moi, j'ai tout de suite traduit une communauté. Et j'avais envie d'écrire sur les communautés. Les communautés, en même temps, je déteste le communautarisme. Mais ce qui m'a envoyé sur l'idée de communauté, c'est l'idée de partage. Et l'idée que j'ai eue tout de suite, on en parlait tout à l'heure, que tout le monde a quelque chose à donner aux autres. Et pourquoi formons-nous actuellement des sociétés aussi individualistes où finalement, souvent, on ne connaît même pas ses voisins de palier. C'est à peine si on connaît les gens qui habitent dans le quartier. Et ce que j'aime pas dans le communautarisme, c'est le fait que le principe est quand même de s'y rapprocher de gens qui nous ressemblent, de gens qui ont le même âge ou les mêmes centres d'intérêt ou la même culture, avec qui on a beaucoup de points communs. Donc, voilà, moi je suis tout de suite partie sur l'idée, comment on peut faire pour avoir envie de créer des communautés où se réunissent des gens qui sont très très différents les uns des autres, sans qu'ils aient rien en commun.
C'est là que je vais lire un petit extrait de ton texte, Sylvie. C'est Céline Sofferer qui, ou Léa, je ne sais plus, Léa, qui répond à un questionnaire qui demande des éligibles. Attends, c'est des communautés éligibles. Voilà, faire partie d'une communauté éligible. Et puis,
il faut respecter un certain nombre de conditions, voilà, très précises concernant, par exemple, le nombre de personnes qui font partie de la communauté, voilà, et la diversité de ses membres, en gros.
Alors, le coordinateur a donc pour mission de réunir des individus qu'il ne connaissait pas auparavant ou alors uniquement de manière très superficielle. Ces individus doivent être aussi diversifiés que possible à tout point de vue, âge, goût, origine, milieu social, revenu, etc. Et ils doivent être malheureux ou du moins insatisfaits. Cette condition assez intéressante, et ça débouche sur une nouvelle... C'est une histoire à chute, on ne va pas la révéler, mais... C'est vraiment magnifique.
Alors, tout le défi et la difficulté de ce projet a été, enfin de ce texte, a été de trouver ce qui pouvait donner envie aux gens de se rejoindre. Et du coup, ça m'a fait me poser plein de questions. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça tout le temps dans notre vie ? De quoi on aurait besoin ? Quel est le petit déclencheur qui nous aiderait à le faire ? Et donc, j'ai été obligée d'inventer un projet qui donnait une bonne raison à tous ces gens de se découvrir, de faire connaissance et de se lancer dans une aventure ensemble.
J'aimerais bien commenter sur la réflexion que je trouve plutôt riche sur l'idée de les gens qui nous ressemblent et les gens qui ne nous ressemblent pas. Et la notion de communautarisme telle qu'on l'entend... assez fréquemment. Alors, il ne vous a pas échappé que je suis une femme noire. Et si on est quatre femmes noires dans une pièce, on peut nous accuser de communautarisme parce qu'on correspond à une catégorie qui, socialement, est identifiée comme une catégorie. Parmi ces personnes, il peut se trouver des gens qui sont lecteurs, amateurs de science-fiction, et puis d'autres qui vont préférer le macramé. Bon, je ne serai pas dans la catégorie macramé. Mais du coup, je vais découvrir des choses sur le macramé et avoir vraiment le sentiment d'être avec quelqu'un qui ne me ressemble pas. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la science-fiction, qui pour moi est une communauté, puisque nous sommes regroupés autour d'un goût commun pour la science-fiction. Mais quand on est 10 amateurs de science-fiction dans une pièce, on ne parle pas de communauté. Donc je trouve ça intéressant parce que ça parle beaucoup des normes et de la manière dont les catégories sont construites socialement et ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Si nous sommes 5 femmes grosses dans une pièce, car ça ne vous aura pas échappé que je suis aussi une femme grosse, peut-être qu'aujourd'hui on parlera de communautarisme parce qu'il y a des discours qui s'élèvent sur la grossophobie et que du coup ça autonomise une catégorie qui n'était pas forcément considérée comme telle à ce moment-là, et avec aussi parfois une espèce de soupçon de... C'est pas de ma faute.
Solidarité immédiate. Chaude. Ça va ? Chaude.
Oui.
Voilà, et je vais faire plus court. Donc mon propos était de dire que les catégories sont construites et pas forcément celles qu'on croit. Et voilà, si on se réunissait entre gens qui chaussent du 40, voilà, qu'est-ce qui est identifié comme communautarisme et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qu'on a en commun avec les gens et qu'est-ce qu'on n'a pas en commun ? Je me suis retrouvée parfois dans des groupes, des réunions en non-mixité de femmes noires et j'étais la seule personne à aimer la science-fiction, mais je me suis sentie un peu seule. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous rassemble quand Ariel disait des gens différents ? Je peux avoir plus en commun avec Ariel qu'avec quelqu'un qui va avoir la même apparence physique que moi. Et voilà, donc je trouve ça intéressant aussi quand on parle de groupe, de ressemblance, de prendre le temps en fait de s'interroger sur quel est le critère et d'où il sort et qu'est-ce que ça nous raconte et qu'est-ce que ça efface aussi de nos ressemblances et de nos différences.
D'ailleurs, vous le voyez, c'est toutes et tous parlent d'altérité. On se rend compte, au fond, finalement, que la solidarité, elle tient à cette question qui est une question insoluble, en fait. C'est-à-dire on ne peut pas résoudre la question de l'altérité, de ce qui est autre, de ce qui me ressemble, en fait. Mais tous les textes, ils montrent bien qu'il y a une tension. C'est-à-dire que la tension vers qui me pousse, plutôt que de m'éloigner de celui qui est différent, de potentiellement tenter de m'en rapprocher. Et parfois, c'est infaisable. Si votre Zemmour, par exemple, c'est difficile. Mais s'il aime le chocolat et qu'il refuse de parler de Zemmour, on peut peut-être discuter, surtout s'il m'en donne. Non, bon, je rigole, mais voilà. Cette question de l'altérité, de ce qui fait ou pas proximité, et à la fois au niveau des individus, au niveau des groupes, et au niveau d'une société, en fait. Parce qu'à un moment donné aussi, la solidarité, ça infuse, quelque part. Si on est dans une société, et si les puissants, le pouvoir, sont plutôt dans une logique de dire « soyez meilleurs les uns que les autres, parce que le travail vous attend de l'autre bout de la rue », c'est pas la même chose que si on a quelque part des gouvernants qui sont nous-mêmes, d'ailleurs pourquoi pas, si nous-mêmes on est nos propres gouvernants, et s'il y a des logiques de délibération différentes, eh bien la question de la solidarité se pose évidemment de façon différente. Et au fond, toutes ces nouvelles, c'est ce qu'elles explorent. C'est ce qu'elles explorent avec une grande part d'incertitude, une grande part de découverte, de surprise, et c'est en ce sens-là, en tout cas c'est ma conviction, qu'elles ébauchent peut-être quelque chose comme d'autres projets, comme Demain le travail, Demain la santé, de la Volte et beaucoup d'autres.
J'ai envie de poser une question polémique un peu. Je reprends un texte dans la quatrième conversation. Là. C'est Ariel Kirou qui le dit.
Qui
les fictions qui nous portent le plus dans les logiques de solidarité sont le plus souvent en tension entre utopie et dystopie. Des récits utopiques sur fond de dystopie ou des dystopies intégrant une part d'utopie. Bon, ça fait un peu compliqué comme ça, mais moi, il me semble personnellement que les dystopies sont les récits de science-fiction qui traitent le mieux de la solidarité, qui placent le mieux l'humain au centre. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort ?
Oh, vas-y, tu veux répondre, mais allez,
Ouais.
Vas-y, Michael.
Ouais. Moi, je milite pour la formation d'un terme qui s'appelle la contre-dystopie. On a déjà utopie, dystopie, on sait à peu près ce que c'est. On a contre-utopie aussi, qui est une fausse utopie et qui dérive dans la dystopie. La dystopie, de la solidarité dedans peut-être, mais elle sera malmenée et elle échouera toujours. Parce que c'est le principe de la dystopie, d'avoir un monde qui contraint l'individu et qui l'empêche d'accéder au bonheur. La contre-dystopie, par contre, c'est peut-être de partir d'une dystopie dans laquelle les personnages retrouvent, encore une fois, leur agentivité pour pouvoir atteindre leurs idéaux et peut-être même atteindre le bonheur, tel qu'ils le conçoivent.
C'est pas la vraie vie, ça ?
Oui, oui, c'est la vraie vie. On est dans une dystopie déjà. On est déjà dans un monde post-apocalyptique pour certains. Vous vous rendez pas compte, mais c'est le cas. Maintenant, la solidarité, il faut l'activer, il faut l'éclater pour justement faire ce pas qui nous relie à l'autre. C'est ce qu'on appelle la mise en relation, défendue par Édouard Glissant et que Katie sous-tendait dans sa première intervention. C'est ce pas dont tu parlais, ce pas vers l'autre, celui qui est au plus distant de nous, pour en prendre soin. Et oui, on peut faire un pas vers un Zemmourien. Ce qui rend difficile ça, c'est lui, parce qu'il est celui qui est dans le repli sur soi, qui rend la chose de la relation difficile. Mais dans la solidarité, toujours, ce n'est pas l'en commun qui est important, c'est la différenciation. C'est pas l'indifférenciation, c'est la différenciation. Et donc la différence que l'on voit en l'autre.
Alors moi, je voulais juste profiter de cette occasion, puisqu'on parlait de solidarité et utopie ou dystopie, pour dire tout le bonheur qu'on peut avoir à lire Becky Chambers, qui est une autrice extraordinaire, qui parle très très bien de solidarité et qui en parle... alors c'est vrai que ces personnages, c'est... vivent des choses qui sont quelquefois compliquées, mais ce qui embellit complètement ces histoires, qui fait qu'on en sort radieux et complètement plein de chaleur et de joie humaine, c'est cette incroyable solidarité, empathie, compréhension et sens du partage qui anime tous ces personnages. Et elle en parle de manière merveilleuse. Lisez Becky Chambers, c'est que du bonheur. Non, mais
c'est vrai. Apprendre aussi par bonheur, et toute la série L'espace d'un an. Apprendre aussi par bonheur est un bouquin très court, et c'est du space opéra, mais sans violence. Voilà.
À toi. Hey, vas-y.
Non, mais je
voilà, mais, et utopie contre. Oui, alors, donc. Tu réponds pas ?
Ton micro, c'est celui de Katie. Voilà. Hein.
C'est moi qui gère. Mince alors.
On a répondu à la question.
Ouais, bon, regardez-moi, oui, mais bon,
je... Il a plein d'autres questions.
Ah bon.
Oui.
Des gens bavards, je crois.
Oui. Alors, là, je reviens sur la solidarité. Vous faites le constat dans le livre, quelque part, que la solidarité, actuellement, elle s'étiole, elle est en perte de vitesse dans nos sociétés. Mais pour quelle raison est-ce qu'elle est en perte de vitesse ? Est-ce qu'autrefois, c'était mieux ? Je ne sais pas.
Alors, moi, je veux bien répondre. Je crois que j'ai jamais dit qu'elle était en perte de vitesse, donc, mais je peux répondre quand même, parce que je ne crois pas qu'elle soit en perte de vitesse. Je pense qu'on a le défaut. Alors parfois, ça, en science-fiction, pas mal aussi, où on va décrire la vie sur une planète. On a l'impression qu'ils sont tous pareils, à vivre les mêmes choses sur la planète. La planète des gens qui s'habillent en blanc, ils s'habillent tous en blanc. Enfin voilà, on perd quelque chose d'une nuance qui peut exister dans la réalité. Et on a aussi envie d'avoir un regard avec une focale très, très large pour essayer de comprendre et se dire, mais avec toutes les infos qu'on a, on voit bien que les gens sont égoïstes, on voit bien que les gens, ils font la guerre, on voit bien, donc on a le filtre des infos qui nous parviennent et on arrive à un constat extrêmement pessimiste de on va tous mourir et c'est juste horrible. Moi, je pense qu'à un moment, il faut aussi se donner la possibilité d'avoir une focale un peu plus réduite, de regarder ce qui se passe autour de nous, d'essayer de changer les choses autour de nous. Et là, on réalise que les gens n'ont qu'une envie, en fait, c'est de s'entraider. Parfois, ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment, par exemple, donner du temps à des gens qui en ont besoin, mais à côté de chez eux, en fait. Et c'est peut-être plus simple aussi de se dire comment je peux aider à côté plutôt que de se dire comment je vais changer le monde. Et très souvent, dans nos récits de science-fiction, on est sur des échelles qui ne sont pas faciles à appréhender pour un être humain tout seul. Et c'est là que je trouve ça intéressant d'avoir un thème comme la solidarité qui va nous obliger... qu'est-ce que ça serait une planète solidaire ? Enfin, on s'y perd, en fait. Et donc, ça nous oblige à avoir une échelle humaine et d'être sur des choses qu'on peut appréhender et d'être sur des réflexions qui vont aussi nous sortir de peut-être ce que va faire la hard science, imaginer une invention formidable qui va tout changer. Là, à une échelle humaine, on a des choses qu'on arrive à appréhender, on a des sentiments, des émotions qu'on n'arrive pas à attraper dans ce type de récit. Et donc, moi, je ne crois pas que, en tout cas, la capacité à la solidarité, elle est disparue, mais c'est peut-être qu'on ne sait pas trop comment regarder.
Promis, je vais être court. Je crois pas qu'il y ait moins de solidarité aujourd'hui qu'il y en a eu hier, en fait. En revanche... à d'autres époques, dans d'autres contextes politiques, économiques, sociaux, pas simplement en Europe, partout dans le monde, il y avait des tissus de solidarité. Il y avait des communautés qui étaient effectivement... La solidarité se jouait au sein de la famille élargie, par exemple. Mais ça avait ses qualités et ses défauts, parce que c'était compliqué d'échapper à ce monde-là qui était effectivement très solidaire, mais qui était étouffant parfois, en fait, hein, qui était très, très étouffant. Voilà. Donc, mais il y avait quand même cette solidarité presque naturelle, en quelque sorte. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde qui nous semble ressembler de plus en plus à une dystopie, avec cette surinformation partout et ainsi de suite, ce qui nous pousserait à être solidaires est moins puissant et moins fort que ce qui nous poussait alors à être solidaires, ne serait-ce que pour des raisons religieuses, pas forcément que pour des bonnes raisons. Je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, la religion, mais il y avait un tas de raisons pour lesquelles les gens faisaient œuvre de solidarité. Ce qui a changé, c'est que ce tissu n'est plus le même, que les mécanismes de solidarité, s'ils se reconstruisent différemment. Et donc, il y a un enjeu majeur aujourd'hui, non pas... Parce que je ne pense pas que les gens aient moins envie d'être solidaires, ni plus ni moins. En revanche, il faut construire les mécanismes qui vont permettre à cette solidarité de s'exprimer facilement et pour le plaisir aussi des gens, quelque part. Et ça, c'est un immense chantier qui, en plus, est assez passionnant.
D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve intéressant les monades de Katie dans sa nouvelle. Mais je voulais poser la question à Michael Rock. Oui, puisqu'il y a des éléments vaudous dans votre récit. Est-ce que le vaudou, c'est pas aussi une forme de solidarité quelque part ?
J'en sais rien.
Non ? Il n'y a pas une idée ?
Non, il n'y a pas de vaudou. Alors, il n'y a pas de vaudou dans ma nouvelle parce je ne connais pas de
Kerboiseur. L'héroïne, elle est.
Oui, mais c'est romantisée.
Oui, d'accord.
Hein, okay. Le vaudou.
On oublie la question.
Les Ougans, tout ça, ils sont. Pour les approcher, il faut. Enfin, c'est pire que le pape.
D'accord.
Donc, je ne connais pas ces personnes.
Ok.
Malheureusement.
C'est bon. Ce que tu dirais si tu les connaissais, ceci dit.
Leurs secrets, je ne les connais pas.
Surtout le troisième.
Les pratiques magico-religieuses de la Santaria, je ne les connais pas. Mais oui, on a des rituels qui parfois sont réinventés, notamment par beaucoup d'artistes plasticiens. C'est très drôle parce qu'ils mêlent vraiment leur créativité aux valeurs religieuses, si on peut dire ça comme ça. Notamment Annabelle Guéredra qui fait un super boulot sur l'afrofuturisme. Et l'art plastique, l'art performatif, la performance artistique. Donc, quoi, il y a des éléments vaudou, mais je pourrais pas aller plus loin dedans, quoi, parce que c'est juste là pour donner une idée que quelque part sur ces territoires-là, la technologie fait corps avec ce qu'il y a de métaphysique dans ce monde.
Ok, merci. Ok, voilà.
Il y a un silence, il est désarçonné, vous comprenez.
Je suis complètement désarçonné, mais heureusement, j'ai encore une question là. Oui. Non, je voulais dire, écrire sur la solidarité, c'est pas nouveau. Il y a des écrivains qui l'ont fait déjà. Quels sont vos modèles ou vos références en la matière ?
ça va me permettre de rebondir sur la question à laquelle je n'ai pas pu répondre. C'est ce qui s'appelle les malins, vous savez, les esprits malins. Non, mais je rigole, c'est John Brunner. John Brunner, c'est-à-dire que lorsqu'il écrit « Tous à Zanzibar », lorsqu'il écrit « Sur l'onde de choc », lorsqu'il écrit « Le troupeau aveugle », le truc qui est fascinant d'abord, c'est qu'il y a une pluralité de personnages et qu'il a réussi à entrer en empathie avec tous ces personnages, y compris le chef d'entreprise assez lamentable. Donc déjà, cette pluralité de voix, pour moi, c'est quelque chose qui, qui a quelque chose de l'ordre déjà d'un auteur qui entre en solidarité avec ses personnages, aussi antipathiques puissent-ils être. En plus, au sein de ces mondes qui sont dystopiques de Tous à Zanzibar ou de Sur l'onde de choc, il y a systématiquement une utopie. Par exemple, sur l'onde de choc, qui est un monde de surveillance globale qui ferait frémir Alain Damasio, il y a ce qu'on appelle Précipice, qui est une ville qui s'est construite après un cataclysme du côté de la Californie, sur une logique de commun. En fait, en fusion avec la nature, c'est un moment assez incroyable. En fait, c'est qu'en 1975, il écrit une ville, on a l'impression de voir un modèle utopique de ce qu'on aurait envie de voir aujourd'hui. Dans tout ça, Zanzibar, il y a le Béninia, un petit état africain d'une grande pauvreté, mais où il y a un art de vivre extraordinaire dans tout ça, Zanzibar. Et donc, le truc qui est assez formidable, c'est qu'il part de ces personnages, cette pluralité, où déjà on entre en empathie, y compris avec des gens qu'on n'aime pas forcément. Et puis, au fur et à mesure de cette dystopie, on voit naître la potentialité d'une utopie. Ça, je trouve ça extraordinaire, parce que justement, puisque nous sommes en dystopie, construisons des utopies. Et puis, si on se plante, on en fera d'autres et on essaiera de le faire avec le sourire.
Bon, bah, si Ariel parle de John Brunner, moi j'ai le droit de parler de Robert Silverberg. Il n'y a pas de raison. Et donc, Robert Silverberg, c'est quelqu'un qui parle lui aussi très bien de partage et d'empathie. Et il a un roman que moi j'adore qui s'appelle L'homme dans le labyrinthe, qui raconte le destin absolument dramatique d'un homme qui se retrouve exclu de l'humanité et qui va finir par la sauver, mais qui parle de solitude sociale d'une manière extrêmement touchante. Donc, je crois que c'est lui qui m'a fait le premier réfléchir à ce qu'était la solidarité.
Je prends la parole juste un instant aussi. C'est-à-dire que pour moi, c'était Theodore Sturgeon avec Les plus qu'humains. C'est en fait le livre qui m'a fait découvrir la science-fiction. Pour moi, c'est aussi c'est un livre où tous les personnages sont des personnages handicapés ou qui ont des difficultés. Mais tous ensemble, ils arrivent à créer un esprit supérieur. Et c'est absolument génial. Ou Cristal qui songe. Enfin, voilà. Donc, il y a déjà des auteurs qui se sont... Ouais, ou Clifford et Saïmac, quoi, aussi, qui se sont... penchés sur la question, on va dire, qui sont des auteurs solidaires. Alors, la question que je voudrais poser maintenant... Spinrad aussi, ouais. Vous avez entamé un processus, quelque part, avec ce genre de nouvelles. Est-ce que vous allez continuer dans ce domaine? Est-ce que vous avez envie d'écrire d'autres récits qui mettent la solidarité au premier plan? Voilà.
Ouais, j'ai pas répondu à la question précédente parce que j'ai aucun nom qui m'est venu en tête. Mais par contre, ça peut répondre à ces deux questions-là. Ce que j'ai envie de mettre dans mes textes et de les travailler, c'est justement des mondes que l'on peut sauver, mais à plusieurs, en collectif. Parce qu'on a toujours eu affaire à des héros ou héroïnes seuls au monde, qui font le taf en solitaire. Hein, Harry Potter en premier, par exemple. Et du coup, voilà, activer cette solidarité pour sauver le monde, c'est aussi activer le collectif. Donc, du coup, j'avais prêté ça dans L'heure où s'écrasent les abeilles, par exemple. Ici, encore une fois, c'est une équipe médicale qui s'appelle La Clandestine. Donc, voilà, activer ce pouvoir du commun, du collectif.
Merci. Cathy.
En fait, ce n'était pas nouveau pour moi d'écrire sur la solidarité. La commande était nouvelle dans cette manière de formuler les choses, mais des histoires avec une personne qui va sortir du lot et qui va se découvrir et changer le monde, ce n'est vraiment pas ce qui me plaît. on sait qu'on est dans des tissus de solidarité et dans nos histoires, on fait comme si il y avait moyen d'être tout seul et de faire des trucs tout seul. Donc, ça, je trouve ça un peu bizarre. Donc, dans tous mes textes, il y a toujours une question du lien à l'autre. Et peut-être j'irai encore plus loin que Michael dans l'idée que peut-être il n'y a rien à sauver aussi. Voilà, peut-être on peut juste trouver comment on fait avec. Et peut-être qu'on peut prendre goût à des histoires où il ne s'agit pas de casser l'ordre ancien pour créer un ordre nouveau. Peut-être ça peut être voilà, comment on fait cohabiter des choses un peu différentes, comment on trouve dans les interstices des choses intéressantes à explorer, comment on peut apprendre à regarder différemment des choses qui nous paraissent familières. Voilà, le récit guerrier de « il faudrait conquérir quelque chose », être le premier à avoir fait quelque chose. Personnellement, moi, ça me fatigue un peu. Et je ne sais pas, je sais pas pour les lecteurs, donc peut-être je continuerai à rien vendre. Mais je vais continuer à écrire parce que j'ai envie d'explorer des choses, d'utiliser mes textes vraiment pour explorer des choses un peu différentes et un peu... voilà.
Merci. Bon, Sylvie, je suppose que c'est assez difficile de répondre parce qu'en fait, il me semble que la plupart de tes textes sont justement dans cette ligne-là.
Oui, bah, déjà, je suis étiquetée. Enfin, si on met un label sur moi, c'est souvent déjà sur le principe qu'il n'y a pas beaucoup de violence ni de bagarre dans mes textes. J'aime pas bien le conflit. On est obligé d'avoir des conflits de temps en temps pour ne pas se faire complètement piétiner, mais c'est quand même pas jouissif. Donc, à part ça, ben, je ne sais pas, entre ce qu'a dit Michael et ce qu'a dit Katie, j'aurais exactement pu dire la même chose que ce qu'ils ont dit tous les deux. Donc, ça me convient très bien, j'approuve. Et nous l'exprimons collectivement.
Voilà, je crois que nous arrivons au terme de cette table ronde. Je remercie aux auteurs d'avoir répondu à mes questions, à ces questions, et voilà. Au public nombreux d'avoir...
D'avoir applaudi à ces questions. Non, mais ceci dit, là, vous avez une chance, c'est que si vous voulez prendre le bouquin et le faire signer par non seulement Katie, Michael, Sylvie, mais également Anne-Sophie qui est là, donc vous avez quatre auteurs et autrices, je veux dire, sans parler du non-auteur que je suis, qui parle d'une vague auteur, dont je ne saurais dire à quel auteur elle est. Merci.
Merci à tous.